On va commencer ce bord de scène, on va discuter à peu près un quart d'heure, 20 minutes avec nos deux amis, et puis ensuite il y aura, si vous voulez bien intervenir, c'est pas une obligation, mais enfin c'est possible. Donc la question que je voulais vous poser, c'est que vous avez choisi de mettre en scène un texte d'Hervé Le Tellier, qui est né en 1957, et certains le connaissent entre autres parce qu'ils l'entendent et l'ont longtemps entendu à la radio dans Les Papous,
oui.
L'émission à laquelle participait un peintre que j'aimais beaucoup, avec lequel j'avais eu de très belles discussions et qui est mort aujourd'hui, s'appelait Henri Cueco. Et c'est un texte qui date de 2004, que vous avez utilisé.
Et donc la question. Qui a été réédité en 2015.
En 2015. Et il y a des ajouts, comme vous le dites, des éléments inédits, puisque j'ai le texte que vous avez joué. Et donc la question que je voulais vous poser, mais toute simple. Comment vous est donc venue cette idée d'utiliser ce texte-là, de la Chapelle Sixtine?
C'est aussi la question que m'ont posé mes petits camarades.
Et oui, bien sûr.
Effectivement. C'est une série de hasards qui n'en sont pas. Et donc, en fait, il se trouve que... Alors, par où je commence? En 2015, ce texte... Alors, moi, je suis assez proche de l'Oulipo. On va dire que c'est des textes et des auteurs qui ont pas mal... compté dans ma vie littéraire, théâtrale. Je pense que je suis beaucoup arrivée à la fois par des surréalistes et par des oulipiens ensuite à la littérature et au théâtre. Et c'est vrai que les jeux avec les mots, même en musique, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas oulipien, mais même Bobby Lapointe, qui est dans l'amour des mots comme ça, c'est des choses qui m'ont toujours beaucoup touchée. Et donc, il se trouve que j'ai rencontré Hervé Le Tellier en... Alors, Hervé, il a vu quasiment tous les spectacles que j'ai fait, je crois, depuis une vingtaine d'années que je fais du théâtre. Mmh. Donc, voilà, on s'est toujours suivi de plus ou moins loin. Merci. Et il se trouve que là, voilà, on s'est re-rencontrés. Moi, j'ai pas mal participé à des choses avec l'Oulipo. Je les ai accompagnés en voyage pour écrire. Je les ai accompagnés au Canada pour écrire des chansons avec eux. Enfin, bon, j'ai fait des choses comme ça avec eux. Donc, j'ai rencontré Paul Fournel aussi.
Mais oui.
Et j'avais donc très envie de monter un texte. J'avais envie de monter un texte et pas un collage de textes comme ça. C'est fait beaucoup à l'Oulipo aussi. J'avais pas envie de. Voilà, j'avais pas envie d'être dans un genre de cabaret montage de texte. J'avais aussi envie de monter un texte qui n'ait jamais été monté. Il se trouve que ce texte-là, je ne sais pas pourquoi, au cours d'une conversation ou je ne sais quoi, Hervé a dû me dire qu'il était réédité en 2015, et donc je l'ai relu et je l'ai trouvé. Disons que son originalité pour moi était justement liée au sexe, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je crois que c'est la première fois que je lis un texte d'un auteur oulipien où il y a du sexe. Enfin, c'est pas quelque chose qu'ils abordent très fréquemment, pour ainsi dire jamais. Enfin, donc ça m'a amusée, et je sais pas pourquoi, alors ça c'est tout à fait personnel, j'ai tout de suite eu l'idée de cette histoire de fil de laine, parce que je me demandais aussi dans quelle mesure on pouvait monter un texte oulipien en faisant un parallèle avec une scénographie qui soit sous contrainte aussi, c'est-à-dire que les contraintes, les contraintes d'Hervé dans ce texte, elles sont multiples. Et c'est vrai que j'ai imaginé tout de suite dans ce texte-là, je me suis dit hein, ce serait vraiment très très chouette si entre chaque personnage on tissait du lien et on tissait des fils. Donc cette image de quelqu'un qui tisserait sur scène et qui en fait en voulant démêler ses histoires s'en mêlerait elle-même de plus en plus. Voilà, j'ai eu ça tout de suite en tête et ça m'a plu. Et après, c'est des concours de circonstances, de calendrier, d'occasion. Il se trouve que c'est une année, ce spectacle, c'est vraiment un petit spectacle en plus. C'est-à-dire que c'est un spectacle qu'on n'avait pas prévu, qui n'était pas, voilà, qui n'était pas au programme. Il se trouve qu'on avait quelques mois de chômage. Ça peut arriver.
D'intermittence.
Voilà, avec quelques mois, on trouvait qu'on n'avait pas assez de travail. Et donc, j'ai dit à Cédric, est-ce que ça, voilà, on pourrait faire ça à deux, une forme légère qu'on pourrait donner même en appartement, parce que ça m'amusait aussi d'aller dire des mots crus, très crus comme ça, voilà, dans une forme très, très intime, très proche des gens. Donc, on ne l'a pas tout de suite donné sur des scènes de cette taille. On l'a même donné dans des scènes plus grandes après, mais bon. C'est un spectacle très extensible aussi qu'on a donné dans des très petits espaces, dans des plus grands espaces. Et donc voilà, c'est un spectacle qui est arrivé comme ça, un peu en plus du reste. Moi, je sortais d'une grande série de spectacles sur des contes de fées. Et puis je me suis dit, allez, maintenant, un petit coup de spectacle sur le sexe, ça va peut-être me faire grandir un peu. Donc non, voilà, c'est arrivé un peu, disons un peu par hasard. Et juste pour le plaisir de l'exercice aussi, presque comme une, c'était pas une commande de Loulipo, mais pour moi, je l'ai vécu presque comme une commande, quoi, dans quelque chose de...
Alors, on peut peut-être rappeler que Loulipo, c'est ce mouvement littéraire qui accorde une importance déterminante à des règles formelles, qui peuvent être différentes, variées, etc.
Et qui produisent du potentiel.
Et qui produisent du potentiel à partir de contraintes de départ.
Voilà.
Moi, je me rappelle en avoir parlé.
C'est des rats, qui, je ne sais plus voilà. Vous, il y a marqué que c'est des rats qui se proposent de construire eux-mêmes leur labyrinthe, en fait.
Voilà.
Oui, c'est une. Ils se mettent des bâtons dans les roues pour essayer d'avancer plus vite.
Il y a de très beaux textes comme ça de Jacques Roubaud sur ces questions de formelles. Mais vous avez tout à fait raison de dire que généralement, le sexe n'est pas abordé comme si, en quelque sorte, le formel portait sur les mots, mais. N'osez pas aborder la question de la rencontre des corps, par exemple, ou des sexuels. C'est ça qui vous a intéressé, vous particulièrement. C'est l'Oulipo
Ce texte m'a plus étonné que. Il m'a étonné, en fait, quand je l'ai lu. Il m'a surprise. Voilà. Donc, voilà. Il m'a plus étonné que. C'est vrai que j'ai été surprise de voir autant de sexe dans un texte oulipien. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est arrivé à Hervé Le Tellier qui n'avait pas. Et en plus, après, du coup, quand on en a parlé, il m'a dit effectivement, lui, qu'à un moment donné, alors, il y a plein de raisons à ce texte, mais notamment, ça le faisait rire que les scènes de sexe dans les romans soient des passages obligés. Et il s'est dit, tiens, et si j'écrivais dans un roman toutes les scènes de sexe de tous mes romans futurs, passés et futurs, et donc je pourrais écrire comme ça des scènes de sexe, parce qu'il y en a vraiment qui sont dignes, enfin qui sont très très crues, très cliniques et qui sont en fait pas érotiques du tout. Enfin, c'est des scènes voilà. Et donc.
Et assez stéréotypées.
Oui, et qui vont tout à fait dans des lieux communs avec la petite phrase basculement, la dernière petite phrase qui toujours fait un peu basculer. D'un côté ou d'un personnage ou d'un autre, je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois. Et donc voilà, j'ai posé cette question et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a.
Et quand Jeanne vous a proposé, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, la vraie histoire, c'est que je l'ai appelé après avoir fini le roman et je lui dis, sérieux, je voyais pas du tout ce qu'on allait faire dessus. Je suis pas comédien de formation, c'était la première fois qu'elle me mettait sur scène. Et se lancer dans la danse, c'était un peu particulier. C'était un peu particulier. Après, je fais confiance à Jeanne. On a fait beaucoup de spectacles ensemble. Mais la première fois qu'on a fait la lecture à la table, quand même, on a eu un petit moment de blues parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on va en faire de ce texte.
Mais moi, il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose aussi un peu, je pense, de moi pour moi, d'un petit interdit, de quelque chose aussi de dire autant de mots crus, cette accumulation de mots crus. Je me suis dit, tiens, effectivement, on s'en est rendu compte en l'éprouvant les premières fois qu'on a fait des lectures, mais dis, qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de mots, voilà, tous ces mots assez, assez variée, clinique, pour dire verge, couille, bite, et on en avait plein la bouche. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de presque, enfin, de l'ordre de l'interdit ou de quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, quoi, que voilà, qui serait pas tout à fait naturellement venu.
Mais le parti pris, vous me direz si vous êtes d'accord. Le parti pris, c'est que vous n'érotisez pas le texte.
Non, ouais, effectivement.
C'est-à-dire,
pas
vous
du
le
tout
dites
envie.
Relativement à froid, distancié, ou à la limite, la rencontre des corps chez les humains se rapporte presque à la rencontre des carapaces chez les insectes. C'est dit sur le même mode, presque.
Ah non, je suis pas d'accord.
Vous êtes pas d'accord.
Les insectes font des témoignages anonymes. Alors que enfin, ils sont nommés quand même, ils ont des prénoms, mais
oui.
Je trouve qu'on n'est pas tout à fait sur le même mode. Enfin, moi, ce qui m'a... C'est-à-dire qu'en fait, les insectes, l'étrangeté des insectes, c'est encore plus distancié, quoi. Ils sont cachés. Enfin, les personnes qui en parlent, enfin, j'en parle derrière mes cheveux, quoi.
Oui,
c'est encore plus lointain. Il y a quand même une distance.
Vous trouvez qu'il y a une distance
d'étrangeté un peu
supérieure,
oui. Enfin, il me semble.
Vous êtes d'accord là sur l'étrangeté ou pas?
L'étrangeté, oui. Oui, dans tous les cas, on l'a fabriqué comme ça. Après, moi, en le jouant, je trouve pas. On est sur un mode clinique, mais comme on se connaît très très bien, et puis on l'a joué pas mal de fois, le spectacle, et je me rappelle, on a trouvé la forme quand on s'est rencontré dans le corps. Quand la première fois où on cherchait des choses sur scène, on a trouvé des choses dans la rencontre de notre corps. On a commencé à concevoir le spectacle.
Donc oui.
Le côté clinique et la forme voulue, mais après notre rapport à nous en tant qu'acteurs, je trouve qu'il est beaucoup moins clinique, il est
oui.
très proche.
Oui. C'est la voix qui est clinique.
On se laisse atteindre,
voilà.
Bien sûr.
La distanciation par l'énonciation.
Mmh. Oui, puis c'est de la narration. De toute façon, c'est un texte qui est narratif, qui est un roman au départ, hein, qui n'est pas du tout dialogué ni rien. Mais effectivement.
Alors que les insectes disent je.
Oui, c'est pour ça. Ils témoignent. Les insectes témoignent. Mais effectivement, on a eu envie cette conférencière, ou je sais pas comment l'appeler, mais qui se laisse atteindre justement. Qu'on parte dans quelque chose de soi-disant scientifique qui pourrait vaguement expliquer justement, enfin, de partir de quelque chose de très contraint comme le texte est extrêmement contraint et qui suit une structure vraiment vraiment, alors si je vous expliquais toutes les contraintes qu'il y a dans ce texte, c'est enfin, je suis même pas sûre de bien les comprendre toutes, mais enfin,
au début vous en parlez.
Ouais, j'en parle, mais il y a bien pire que ça, parce que en fait il y a des contraintes globales, après il y a des contraintes par histoire. Donc vraiment c'est un texte qui est extrêmement contraint. Hervé s'est fait une espèce de jeu de cartes, voilà. Et donc c'est vrai que je me suis dit, c'est marrant d'imaginer quelqu'un qui aurait peut-être la naïveté, ou un clown peut-être, je sais pas, qui penserait qu'il peut résumer l'amour à des espèces de, comme ça, de lieux communs cliniques, de situations d'actes sexuels. Et effectivement, vous avez raison, c'est étrange. C'est-à-dire que, en fait, parler d'amour comme ça, c'est étrange. Enfin, c'est étrange dans le sens vraiment étranger. Enfin, je sais pas, moi, je parle pas d'amour comme ça, moi, personnellement. Enfin, je veux dire, j'ai jamais raconté d'histoire comme ça.
Vous n'avez jamais raconté d'histoire comme ça?
Ah non, des histoires de cette manière-là, non. Mais du coup.
Mais si j'insiste sur ce point, c'est pour faire entendre justement le caractère oulipien du projet.
Oui, tout
c'est-à-dire
à fait.
Vraiment une série de contraintes, où presque il y a la parodie au départ, quand vous multipliez, vous divisez, vous tirez les fils, etc. Mais au fond, ils sont présents pour produire ce type de texte.
Voilà, et en fait, de voir de quelle manière, malgré. Enfin, mais de toute façon, c'est l'oulipo, c'est le principe oulipien de base, c'est-à-dire comment, en mettant des contraintes, en essayant de mettre de la science dans l'art et de l'art dans la science, finalement, en essayant de cadrer tout, de prévoir finalement, parce que c'est l'anti-hasard à l'oulipo. Enfin, à la fois, il donne des contraintes et il y a plusieurs potentiels possibles, c'est-à-dire avec la même contrainte, on peut obtenir des textes nombreux et multiples, Mais malgré tout, c'est quelque chose qui a une espèce de... comme une caution scientifique. Et de se dire, si on se met tout ça, est-ce que... est-ce que les clowns qu'on est sur le plateau... est-ce qu'ils peuvent expliquer, est-ce qu'ils peuvent arriver, eux, à s'en tirer et à expliquer quoi que ce soit avec cette accumulation, avec toutes ces petites histoires, ces mini-petits détails et ces mini-petites choses. Et voilà. Et il y a les chansons au milieu qui sont pour moi des ponts. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si, justement...
C'est vous qui les avez écrites.
Les chansons, c'est moi qui les ai écrites. Je les ai introduites dans le texte avec l'autorisation d'Hervé, puis en réfléchissant aussi à ça avec lui. Et c'est des chansons à état d'âme, c'est des chansons, c'est le contraire du texte, quoi. C'est-à-dire que c'est que des chansons, voilà, c'est, pour moi c'est des chansonnettes que j'aurais jamais par exemple mises dans un concert. Enfin, je pense pas, parce que c'est des chansons un peu, pour certaines un peu impudiques ou un peu, enfin, un peu midinette, un peu je sais pas quoi, des chansons qu'on chante un peu à tue-tête dans la voiture et puis après on les répète à personne. Et donc j'en ai une série comme ça, j'en ai plein que je chante à tue-tête dans la voiture. Donc j'appelle ça des chansons de voiture. Et donc ces chansons de voiture, je les gardais quand même, donc c'est quand même dans un but, mais je voyais pas où les utiliser. Et là, ça m'a semblé vraiment très... ça m'a semblé produire quelque chose d'intéressant pour les personnages qu'on était, de s'évader, enfin d'avoir des ponts avec justement leurs états d'âme à ces moments-là, quoi, dans ces moments de chanson.
Alors je vais vous proposer quelque chose, vous me direz tous les deux si vous êtes d'accord, c'est que la contrainte oulipienne essaye d'annuler l'énonciation proprement dite, le sujet qui parle et qui dit. Donc, plus de subjectivité.
Voilà.
Mais les règles formelles du texte, avec un certain nombre de contraintes, parfois très difficiles, quand on voit les règles énoncées par certains projets oulipiens, c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, on se dit, il n'y a pratiquement plus aucune possibilité. Et en fait, il y en a un certain nombre potentiellement. Comme quand on résout une équation, il y a potentiellement la multiplicité des réponses possibles.
Et il y a même des fois, parfois, plus d'inventivité, parce qu'on va à des endroits où on n'aurait même pas pensé aller au départ, en fait.
Et au fond, les chansons, c'est le moment, en quelque sorte, vous dites, je réintroduis ma voix, je réintroduis du sujet, je réintroduis la subjectivité. Mm-hmm. Au fond, c'est une façon d'opposer quelque chose aux contraintes formelles. Parce que vos chansons ne sont pas construites avec ces critères formels.
Tout à fait.
C'est vraiment les chansons de voiture, etc., telles qu'elles viennent.
Je ne sais pas si c'est un genre qui existe, mais je peux le créer. Hein.
Il faut absolument...
La chanson de voiture.
Il faut absolument que vous l'authentifiez, le tamponniez. Mais ces deux éléments qu'on trouve dans la pièce... les contraintes qui excluent le sujet, et puis à la fois les corps quand c'est mis en scène, votre présence des corps, où vous réintroduisez une présence, les corps qui commencent à se déshabiller, l'ambiguïté sexuelle pour Cédric, etc., l'habillement, le corps, et en même temps dans les chansons.
Des chansons...
En fait, on a envie que les choses deviennent poreuses, quoi, qu'on ait l'impression que... On a envie que...
Que sous
couvert de science et d'organisation, évidemment, ces deux personnages, ils sont maladroits, ils sont poreux, et même cette espèce de justement un peu d'excitation qui vient du fait qu'ils disent des tas de choses un peu interdites, voilà, qu'ils soient dans une conférence où ils parlent que de sexe, au bout d'un moment, ça finit par les imprégner, en fait, par les atteindre.
Ouais. Puis c'est la seule chose humaine, réellement humaine, dans tout le spectacle, c'est ces chansons, parce que justement, tout le reste est clinique.
Et vos corps aussi, vos corps, vos présences, vos présences d'acteurs, d'actrices.
Pour moi, c'est un peu le principe du clown, hein, c'est-à-dire que les clowns, ils se mettent plein de règles, et justement, ils se prennent les pieds dedans tout le temps, quoi, mais... C'est un bon moyen de faire du spectacle, de se dire on va faire un truc très très hyper comme ça carré, puis
Après dans la compagnie, c'est aussi que dans la compagnie, le travail qu'on fait avec Jeanne habituellement, on se donne, nous, on correspond bien à Oulipo, parce qu'on se donne énormément de contraintes, Et comme vous le disiez, le fait d'avoir la vidéo, le fait que...
Avec Martin Béziers.
Avec Martin Béziers dedans, le fait qu'on n'ait pas de technicien, qu'on fasse tout, Jeanne et moi. En fait, c'est effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a des scènes qui viennent comme elles viennent parce qu'on doit se débrouiller de la technique, trouver des solutions. Par contre, ce qui a été très, très étonnant... Moi, ça m'a beaucoup étonné. Quand on a commencé à répéter, je pensais que si on avait un problème technique, on ne pourrait pas continuer le spectacle. Et en fait, on s'est rendu compte très, très vite que dans ces contraintes, on arrivait à trouver des petits espaces de liberté qui sont assez jouissifs.
Quand il y a des choses qui arrivent, parce qu'il en arrive quand même souvent. Parce qu'on est tout plein de contraintes, donc entre les fils... Je sais pas, un Mac qui tombe, l'ordinateur, on en a quand même.
Et c'est un jeu, c'est c'était un défi à la base, et maintenant c'est devenu vraiment un jeu assez, assez intéressant.
Donc t'as fait exprès là ce que t'as.
Oui, bien sûr,
j'ai fait exprès. Oui.
C'est quoi, vous avez fait exprès?
Non,
j'ai eu un problème technique. Enfin, Jeanne a fait une bêtise sur ça.
Mais vous, on n'a rien vu. Là.
Ben non.
Enfin, vous le demandez aux gens.
Peut-être qu'un peu si quand même. Lui, il a vu.
il y en a qui le voient, mais dans
tous les cas. Ils ont plusieurs fois le spectacle.
Oui, le micro, par exemple.
Oui, le micro à un moment donné.
Oui, le micro, par exemple. C'est assez visible. C'est-à-dire que là, c'était mieux, il est parti, il a été coupé.
Nos clowns nous permettent aussi ça, vu qu'on est maladroit, on est ce qu'on est sur scène. Des bêtises, les choses qui arrivent passent très naturellement. On n'a jamais eu, en général, quand les gens ne connaissent pas le spectacle, ne se rendent pas compte, à moins qu'on ait vraiment les lumières qui s'arrêtent. Mais sinon, ils ne voient rien.
Au revoir.
Bonsoir.
Donc on peut peut-être, après une petite conversation, vous demander si vous avez des remarques, des...
Je sais pas, je veux dire froid, je veux dire un peu de froideur en fait. C'est ça que je veux. Quand on dit, quand on décrit justement de manière un peu objective, quand on décrit une situation de manière un peu objective, dire il était telle heure, il faisait froid. Oriane offrait ses fesses, il avait on décrit les choses de manière
des énoncés.
Voilà, c'est comme un énoncé. C'est ça que je veux dire par clinique, c'est évidemment. Sinon, il y avait des histoires qui se passaient dans des cliniques, mais je les ai pas racontées.
Mais il y en avait.
Il y en a quand même pas mal que j'ai pas raconté. J'en raconte, je sais plus combien j'en raconte, une trentaine peut-être, la moitié, je sais plus.
D'autres remarques ou questions sur.
Vous pouvez me donner une idée des contraintes
parce que... Il y en a beaucoup. Donc, bon, la contrainte principale, c'est effectivement qu'il a suivi le rythme de la sextine des troubadours. Mais donc, là, ce que j'expliquais, c'est que la sextine, c'est donc 39 vers. Et en fait, c'est comme si vous faisiez, à la place d'un vers, vous avez une histoire. En fait, si vous imaginez qu'à la place du premier 6-1, vous avez 6 histoires. Et en fait, à la place de faire permuter des mots, il fait permuter dans les histoires des lieux, des parties du corps. Mais les lieux, ça peut être des lieux très précis. Ça peut être le drap, par exemple, un drap, ou ça peut être. Voilà. Donc en fait, mettons que quand vous écrivez la première histoire, après vous allez avoir déjà pour les 6 histoires suivantes un jeu de cartes qui va déjà commencer à se remplir. C'est-à-dire que par exemple, vous écrivez une première histoire qui se passe. Je dis n'importe quoi, à Paris, vous allez. Déjà, Paris, ça va permuter dans les 6-6-1 suivants. Ensuite, vous allez avoir. Donc, il ne fait pas permuter des mots, il fait permuter des lieux, des parties du corps. Après, il y a le. Donc, ça, c'est le rythme de la sextine. Donc, il y a 78 histoires avec des permutations comme ça, qu'il a dû. Il m'a dit qu'il s'était fait comme un jeu de cartes et qu'une fois qu'il avait toutes ses cartes, il m'a dit c'est facile, j'avais plus qu'à écrire des mini-histoires comme des mini-courts-métrages. Enfin, c'est très détaillé. Moi, à chaque fois, je voyais une petite image D'ailleurs, la première édition du livre, il y avait des illustrations. Il y avait Xavier Gorce qui avait fait des illustrations. Xavier Gorce qui a fait le dessin de l'affiche, qui avait illustré toutes les histoires. Et donc, une deuxième contrainte, c'est l'alphabet, ce que je vous explique aussi. C'est-à-dire qu'on a donc 78 histoires. Donc, on a chaque personnage. Donc là, il a pris l'alphabet. Il a fait comme une espèce de petit mandala. Donc, je ne sais pas de quelle manière il s'est inspiré. Quoi il s'est inspiré. Sa première rotation alphabétique, elle suit l'alphabet. La deuxième, elle va passer de A à. Enfin, ça va faire une espèce de dessin. Quand on prend l'alphabet, on fait un rond comme ça. C'est dans le bouquin de la chapelle Sixtine, c'est dessiné. Donc, la deuxième rotation alphabétique, c'est pas, ça va faire. Quand on passe de A à O, et ben vous comptez combien il y a de lettres entre A et O, et après, bon, bref, ça fait ça tout le long. Et la troisième rotation, c'est une troisième, pareil, avec un nombre de lettres entre chaque qui a dû le satisfaire aussi, parce que ça a dû l'arranger. Et en tout cas, il l'a suivi rigoureusement, donc vraiment, il a suivi ça. Donc, on a nos 13 hommes et nos 13 femmes qui permutent dans toutes les histoires, donc on les retrouve en fait. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est tous ces petits échos en fait, parce que finalement on retrouve Teishi Hiro, on retrouve des lieux à Paris, on retrouve la rue des Francs-Bourgeois, on retrouve des parties du corps qui reviennent, et donc il y a cette contrainte là et il y a une contrainte supplémentaire par histoire. Qui est une petite contrainte souvent visible, qui vient. Là, il voulait un jeu par histoire. Donc, sur les 78 histoires, il y a un jeu par histoire. Donc, il y en a une, il a utilisé le plus de mots possible pour décrire la poitrine, mais qui ne viennent pas forcément dire la poitrine. C'est-à-dire qu'il y a balcon, il y a. Je ne sais pas. Voilà. Je ne l'ai pas, cette histoire, donc je ne sais pas. Mais bon, il y a l'estufa fria qui est. On utilise plein de mots. Plein de mots latins, donc il y a une contrainte supplémentaire, voilà. Et donc une fois qu'il avait, en fait, pour chaque histoire, son lieu, puisque ça avait permuté, il avait le lieu, la partie du corps, les deux personnages et la contrainte supplémentaire, en fait, au bout d'un moment, il avait son jeu de cartes qui était complet, et sur ces 78 histoires, il n'avait plus qu'à écrire son histoire.
Et du coup, ça, c'est les contraintes de l'auteur?
Oui, c'est les contraintes de l'auteur. Ah, nous, nos contraintes, nous, c'est principalement de se mettre des contraintes physiques avec la laine. Alors, au départ, on l'a fait de manière très rigoureuse en suivant l'ordre des histoires qu'on faisait, enfin, l'ordre des histoires, de A à O, voilà. Après, on a triché un peu parce que c'était quand même très compliqué de tenir le coup sur les 78 histoires. Voilà, mais je pense qu'on tisse peut-être 78 fils. Enfin, je ne sais pas combien de temps tisse. Moi, j'en tisse quand même beaucoup.
On doit tisser.
Moi, je fais une rotation. Moi, je fais une rotation alphabétique et toi, tu dois faire une deuxième.
Déjà, il y a la contrainte de le faire et après, il y a l'autre contrainte de jouer
dedans.
À l'intérieur. Ça se voit.
Et après, nous, les contraintes, elles sont surtout d'ordre technique, c'est-à-dire, c'est surtout des contraintes de on va dire, elles suivent pas du tout le texte, mais par contre, c'est vrai que c'est des contraintes qui sont d'ordre de précision, de la vidéo, de rester dans ce cadre-là, dans notre espace, avec la vidéo dans les contraintes qu'on se met. Enfin, nous, c'est juste des...
En fait, par tout le spectacle est construit pour qu'on se rende pas compte que c'est de la vidéo. Et quand j'appuie sur un bouton, en fait, j'appuie en général 2 minutes 30 avant que il se passe quelque chose, un changement de lumière, un changement dans la vidéo, ou comme ça. Et du coup, nous, on doit dans notre corps, Jeanne dans son.
Moi, quand j'entends un peu des petits bruits d'insectes, je sais que j'ai plus trop le droit de bafouiller parce que sinon on va être.
On est obligé d'avoir toute une rythmique pour tomber exactement au changement qui se passe.
Après, c'est vrai que du coup, ça produit aussi des choses qui des fois marchent pas et qui produisent des petits accidents qui sont pas forcément malvenus quand ils sont pas trop nombreux. Voilà. Mais. Voilà, les contraintes, elles sont de cet ordre. Mais on aime bien, enfin, même dans des spectacles non-olympiens, par exemple, on a monté un petit poussé, Et en fait, l'idée de base, mais je ne savais même pas si ça allait tenir, c'était comme il était question d'échelle de taille, parce que le petit poussé petit, l'ogre est grand, je m'étais dit, tiens, on va le faire qu'avec des échelles. Donc je suis arrivée aux premières répétitions avec deux escabeaux, une échelle, et voilà. Et en définitive, ça a très bien marché. On a réussi à tenir tout le spectacle avec, on avait quoi, deux escabeaux, trois échelles et des échasses. Et on a fait ça, et donc effectivement, il était question d'échelles et d'échelles. Et là, le sens, enfin voilà, ça venait rejoindre la forme et ça fonctionnait vraiment très très bien. Et c'est vrai que s'y tenir, c'est-à-dire il y a des moments où on a envie d'en sortir, de se dire, ah, quand même, on pourrait quand même apporter, on pourrait quand même amener une chaise. Ah non, si on prend une chaise, on prend un escabeau.
Souvent quand on travaille avec Jeanne, et qu'on travaille sur la conception de base, quand elle me présente un projet qu'elle a envie de faire, on se dit non, radicaux, restons radicaux.
On essaye. On essaye de faire tenir les choses le plus loin possible. On essaye de tenir le plus loin possible ce genre de choses. Parce que c'est amusant aussi de voir jusqu'où on peut aller. Mais ça peut être dans n'importe quoi.
Mais c'est exactement ce que vous décrivez, le projet de l'Oulipo.
Oui.
À propos des contraintes. Mmh. Quand on dit contraintes, on imagine que ça va contre la possibilité de la littérature, par exemple. Ou écrire, ça serait écrire ce qui vient, etc. Et ce qu'il démontre, c'est que justement, en explicitant les contraintes, ça n'exclut pas l'invention, la création, le résultat, etc.
Tout à fait, oui. Et nous, c'est vrai qu'on aime
beaucoup.
Nous, on aime beaucoup l'idée qu'effectivement, c'est pas parce qu'on montre qu'on va enlever du mystère. Et c'est pas parce que. Voilà, c'est pas parce qu'on montre le théâtre qu'on va forcément enlever de la magie. Et parfois, il y a même une petite jubilation en plus parce qu'on va être un peu en complicité avec les gens. Et on va être complices ensemble de la convention qu'on installe sur le plateau. Donc, quand c'est réussi, c'est que ça se passe comme ça. Quoi. Avec les spectacles qu'on fabrique, hein, souvent. Et on aime bien justement essayer de questionner un peu cette histoire de convention. Enfin, de toute façon, c'est la grande question au théâtre, c'est dans quelle convention on est, qu'est-ce qu'on propose aux gens et quel pacte on passe avec eux au départ. Donc si on leur explique qu'on va faire un spectacle dans une espèce de contrainte, et ben ils sont au courant, ils savent à quoi s'attendre aussi, et avec un peu de chance, ils vont être avec nous.
Mais c'est l'idée aussi qu'il n'existe pas de texte sans contrainte. Mais souvent, elles ne sont pas dites, elles sont implicites.
Ah ben oui.
À partir du moment où elles sont dites, ça produit aussi un questionnement sur la littérature elle-même, qu'elle n'est jamais comme l'on croit, ce qui vient, etc. On l'a vu dans d'autres pièces, j'ai eu l'occasion de...
Ça, c'était, la grande différence avec les surréalistes, parce que les surréalistes, justement, ils étaient dans l'idée que de l'écriture automatique, enfin, entre autres, et de voilà écrire ce qui vient et comme ça, et c'est vrai que et
après ils sont un peu retouchés les textes qu'on lit sont quand même un peu retouchés, rabotés selon
mais c'est vrai que moi souvent quand j'en ai discuté avec Hervé ou avec Paul, ils m'ont dit mais non, nous c'est nous on n'a pas du tout envie d'écrire en jetant les dés, au contraire. C'est l'anti-hasard, c'est l'anti-page blanche. Mais moi, ça, je l'ai expérimenté en écrivant, par contre, sur des exercices d'écriture, des choses comme ça, où c'est très, très plaisant, parce qu'effectivement, la page blanche n'est même plus une question. Alors là, on ne se dit même plus l'inspiration sacrée, ça va venir. C'est plus la question.
Ils ont voulu déconstruire ça.
Ça, c'est plus la question. Et moi, c'est vrai que j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée aussi qu'en travaillant, on peut accéder au talent, et enfin voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire que, qu'en tout cas, on peut arriver à une émotion en ayant tout à fait construit les choses et expliqué la construction de la chose, et que malgré tout, les choses peuvent quand même nous échapper à un moment donné et produire de l'émotion, quoi.
Et maintenant, il faut décevoir ceux qui s'imaginent qu'ayant toujours été affrontés à la page blanche, il suffirait de se donner des contraintes pour faire de la littérature. Leur talent ne tient pas simplement au fait qu'ils se donnent des contraintes. C'est qu'ils sont très talentueux et se donnant des contraintes, ça produit une littérature spécifique.
Oui, mais
il faut être inventif.
Oui, mais c'est vrai aussi quand on fait des exercices d'écriture. Moi, j'ai fait ça même avec des gamins.
Là, c'est plus
avec des exercices. Oui, je sais, mais même avec des gamins, c'est-à-dire qu'au moins, on provoque quand même
un démarrage.
Et parce qu'effectivement, on part du principe que les choses ne vont pas forcément vous tomber comme ça, de manière...
Désangoissé.
Voilà, c'est juste ça, c'est se désinhiber un peu.
De toute façon, dans la création, même que ça soit dans la musique ou... déjà, la première idée d'une histoire d'un morceau, c'est déjà une contrainte. C'est en soi, la petite flamme qui vient quand on a une idée pose une contrainte.
Mais elle est plus ou moins dite, elle est plus ou moins explicite.
Mais il y en a explicite, toujours. Mais c'est tout le travail d'Oulipo, c'est justement
explicité,
mais s'en servir pour créer autre chose et explorer toutes les formes qu'on peut créer avec ces idées.
Et d'ailleurs, il s'amuse des fois à récupérer des contraintes de certains du livre du voisin et à écrire tout à fait un autre livre sur le même modèle. Enfin, ils font des choses comme ça.
Ils sont très joueurs.
Oui, ils sont facétieux.
Mais c'est l'idée que dès qu'on écoute ensuite à partir d'un texte écrit un écrivain, il démontre que le mythe de « je suis parti comme ça » est absolument très vite déconstruit. Mmh. Il y a tout un système de contraintes, de préalables, avant même que l'écriture soit possible, quelle que soit l'écriture. Il n'y a pas un écrivain sérieux quand on l'interroge et qu'il répond à peu près sérieusement, c'est-à-dire qu'il ne joue pas « ça m'est venu, c'était comme ça ». Dès qu'il sort de cette parodie de lui-même, s'aperçoit qu'on tombe sur ce que vous dites, c'est-à-dire oui, mais bon, j'en étais là de mon écriture, j'avais écrit ça il y a 15 ans, je ne voulais pas le reprendre, et on s'aperçoit que là, en fait, ce qu'on appelle le monde de l'auteur, c'est son monde de contraintes déjà présent. L'Oulipo, c'est qu'en fait il y a l'énoncé des contraintes elles-mêmes.
Alors moi pour l'avoir fréquenté, des fois ils trichent aussi un peu, c'est-à-dire que des fois ils ont effectivement malgré tout, ils ont de l'inspiration parfois. Et ils ne savent pas trop d'où ça vient, de leur intuition, de je ne sais quoi. Et la contrainte arrive après. C'est-à-dire que parfois, évidemment, ils ont. Voire même, pour avoir l'idée de la contrainte, il faut déjà avoir
un. Ils font toujours leur réunion chaque semaine ?
Mensuellement.
Public, c'est ça ?
Pas du tout, public. Ah non, le jeudi de l'Oulipo, oui. Le jeudi de l'Oulipo, c'est une fois par mois.
Ah, c'est ça.
Par contre, les réunions de l'Oulipo, c'est secret.
Avec leur titre, leur. Tout ça. Mais les jeudis de l'Oulipo existent toujours.
Oui, bien sûr. Oui.
Est-ce que la contrainte se libère en modifiant le sens, ou est-ce qu'il y a l'obligation de garder le sens de la proposition avec la contrainte ?
En fait, on fait un peu ce qu'on veut. Hein.
Non,
mais vous avez raison. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris.
C'est pas une contrainte sur le sens.
Il n'y a jamais de contrainte sur le sens. Non, mais la contrainte peut modifier le sens.
Ah, oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Hein? Oui, la contrainte peut modifier évidemment le fond. Bien la sûr. Forme peut ça, modifier le fond. Mais par exemple, on n'est pas à l'abri, en tout cas moi sur scène, si à un moment donné je suis bloquée. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'intérêt de la contrainte, c'est si elle libre. Enfin, c'est effectivement. Qu'elle produit, elle produit du jeu, en fait. Et le jeu, enfin voilà, quand ça joue, ça marche. Et donc on s'en rend compte au théâtre quand on fait de la mise en scène, on tire des fils, on se dit tiens, bah t'as utilisé cet accessoire, tiens on va essayer de tenir le plus longtemps possible sans prendre un autre accessoire. Sur cet accessoire, ça va être le seul accessoire. Et on tire. Et à un moment donné, des fois on se dit oh bah là l'idée est plus forte que finalement l'idée vient, elle nous embête. Et n'hésitons pas à la casser, parce qu'à un moment donné, si on trouve mieux, effectivement, et puis voilà, donc ça peut arriver qu'on s'enlit.
Je ne sais pas si ça correspond aussi à l'idée, mais notre duo, nos clowns se sont créés par la contrainte. Notre façon de bouger, Cédric et Janine, c'est deux personnages, ont été notre façon de bouger, notre façon de.
C'est déjà de mettre des hauts talons au milieu de cette scène pleine de morceaux de ficelle. Moi, je peux vous dire, pour moi, c'était une contrainte.
Et du coup, ça a changé quelque part quelque chose du sens, parce que moi, d'un coup, je me suis retrouvé, alors que je suis grand, je me suis retrouvé à devoir bouger comme ça, d'avoir une jupe qu'on arrache, je suis obligé. Et du coup, les personnages se sont construits par la contrainte et pas par
l'unité. Le film nous a obligés les films nous ont obligés à nous mouvoir d'une manière qui n'était pas forcément naturelle du tout au départ.
Et du coup, forcément, ça change le sens, parce qu'on aurait pu le faire avoir des personnages complètement différents, des clowns complètement différents.
Il y a un exemple classique de contrainte oulipienne qui produit par le choix formel des effets de sens différents, c'est le texte de Pérec, La disparition, où n'employant jamais la lettre la plus utilisée, le E, il y parvient, ça produit évidemment chaque fois des effets de sens nouveaux, et il arrive à jouer le jeu de cette contrainte.
Bah, non seulement il y arrive, mais alors c'est en plus...
C'est admirable.
C'est d'une puissance extrême, parce qu'il parle non seulement de la disparition du E, mais de la disparition de E, E-U-X, de E qui sont ses parents, évidemment. Donc, non, bien sûr, c'est...
De façon dramatique.
C'est un roman, c'est exemplaire, ce roman est totalement exemplaire. Mais la grande question chez les Oulipiens, c'est que parfois, ils veulent pas dire leurs contraintes. Et moi, je persiste à penser que quand je suis lecteur... J'aime bien savoir quand même. Enfin, bon, après, tout le monde est peut-être pas pareil. Mais parfois, il y a des Oulipiens qui n'ont pas envie de ils ont envie, justement, je ne sais pas si c'est une coquetterie de poète, mais ils ont envie qu'on lise leur texte pour le texte et pas en se disant bah, tiens, le défi, c'était ça, et donc le défi à relever était compliqué, et ils y sont arrivés, ils veulent juste que le texte est une
Ils servent leur repas, mais ne vous mènent pas dans la cuisine.
Voilà, c'est ça. Mais souvent, ils ont... voilà. Et là, c'est vrai qu'Hervé, dans La Chapelle Sextine, il n'explique pas... Je crois pas qu'il explique la contrainte dans le roman. Et moi, j'ai eu envie d'en mettre un peu sur scène, parce que je trouvais ça quand même assez marrant de...
Par contre, il y a des dessins, justement, il y a les dessins de...
Ouais, des mandalas, là, des espèces de... Je sais pas ce que c'est. Mais c'est ça aussi qui m'a fait penser au fil, parce que ça m'a fait penser à ces trucs qu'on tissait, là, c'est du macramé, là.
Bien. Bah, écoutez, on vous remercie tous les deux et on vous félicite, parce que c'était très beau.
Bon, merci à vous.